Famille, justice, enfance.
Alors Martine Gazel, vous avez publié Les Oubliés de l'enfance aux éditions Témoignages.
Oui.
Et vous l'avez signé Marcia Blonzel d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que vous avez dit? Parce qu'on va expliquer aux auditeurs, on a fait un essai avant en vidéo, mais la connexion n'était pas suffisante. Vous êtes très impliqué vous-même dans le milieu de la protection de l'enfance, vous suivez les commissions parlementaires, vous appartenez à un collectif.
Oui, alors donc j'ai effectivement donc écrit ce livre sous pseudo, ben parce que là beaucoup des personnes, j'ai changé tous les noms bien sûr dans le livre, parce qu'il y a encore des gens qui sont en vie, et puis aussi par égard pour mes frères et sœurs, hein, parce que c'est très difficile de et puis même pour moi, je me protège aussi, en quelque sorte.
Bien sûr. Et beaucoup de militants, hein, en fait, on parle très peu de nos affaires parce qu'on n'a pas envie que nos enfants, dans 20 ans, soient ramenés à des choses donc, qui n'ont pas envie de voir ressurgir.
Alors,
donc on fait tous extrêmement attention, en fait. Hein.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Alors, donc, moi, je suis très, très impliquée dans la protection, dans le bénévolat des sociales à l'enfance. Mmh. J'ai été bénévole dans une ADEPAP, une association des personnes accueillies en protection de l'enfance, qui est une association qui prend le relais sur le département quand les jeunes sont pas loin de la sortie du dispositif, voire en sont sortis et qui se retrouvent livrés à eux-mêmes. Donc, ces ADEPAP aident les jeunes, hein, qui veulent bien venir nous rencontrer. En général, le département les informe et nous propose de les rencontrer puisque la plupart des ADEPAP sont en grande partie même subventionnés par le département.
D'accord.
Hein, donc l'ADEPAP prend le relais pour les enfants qu'ils souhaitent. Bien sûr, ça n'a pas un caractère obligatoire. Et c'est là qu'on se rend compte que l'accompagnement, j'en ai vu beaucoup, moi, hein, quand j'allais passer une journée par semaine à l'association et j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de jeunes et franchement, ça me rendait malade toutes les fois. J'avais l'impression d'être replongée 50 ans en arrière. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que de la DAS à la ZE, les choses aient si peu changé. Je voyais ces gamins de 17 ans, j'avais l'impression de me revoir.
Non, mais l'institution évolue.
Dans les mêmes difficultés, dans le même isolement, dans la même solitude.
L'institution évolue très très lentement et ceci dans tous les cas, hein. on a beaucoup de mal. La société évolue et les institutions ont beaucoup de mal à aller aussi vite que la société, que ce soit dans la médecine, dans la psychiatrie, dans la psychologie, dans les hôpitaux, dans la façon de suivre nos enfants.
On a une force d'inertie en France qui est terrible. Hein. J'ai abandonné l'ADEPAP parce que je n'étais pas assez en contact avec les enfants et c'est pourquoi je me suis investie comme mentor avec l'association Les Ombres auprès des jeunes de la ZE. Cette association Les Ombres n'accompagne que des enfants de la ZE, exclusivement des enfants de la ZE. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et dans mes mentorats, là, je suis vraiment en contact avec des jeunes. Ils s'inscrivent sur le site de l'association. Ils demandent à être mentorés. Ils indiquent en gros leurs problématiques. Et puis, les 600 mentors de l'association répartis dans la France entière, acceptent de prendre tel jeune en fonction de sa problématique. Sachant que le choix se fait pas à la tête du client, hein, le choix se fait en fonction de la problématique du jeune et de la capacité du mentor à accompagner le jeune pour résoudre cette problématique.
D'accord.
On n'accepte pas un mentorat avec un jeune pour l'emmener à l'échec. Il y en a déjà eu assez comme ça. Donc le rôle du mentor, c'est franchement de le tirer vers le haut, de l'accompagner, de le valoriser, de le guider, le soutenir, de manière à ce que sa problématique se règle et que il puisse construire sereinement son avenir, se loger correctement, entamer un cursus d'études, trouver un contrat d'apprentissage, etc., etc. Les problématiques sont extrêmement vastes. Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup d'empathie, de respect vis-à-vis de ces jeunes, de gentillesse, de douceur. Ils y sont pas habitués, de patience aussi, hein, parce que parfois ils disent non, je veux ça, puis maintenant je veux plus. Bon. Donc, faut être très, très, très patient, comme on le serait avec son propre enfant, hein, et l'amener tout seul à prendre la bonne direction. L'avantage que j'ai, c'est d'avoir été comme une ancienne enfant placée, donc peut-être une plus grande facilité que d'autres mentors qui n'ont pas été enfants placés ou qui sont peut-être plus jeunes aussi. Donc voilà. Et puis, quand la commission d'enquête sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance s'est mise en place, les enfants placés, enfin un certain nombre d'entre eux, parce qu'on est 300, dans ce comité de vigilance, ont souhaité créer un collectif, une instance, afin de suivre et de pas de contrôler, parce qu'on n'a pas, nous n'avons pas cette prétention, mais de suivre tous les travaux de la commission d'enquête afin de veiller à ce que toutes les questions concernant les difficultés rencontrées par les enfants placés soient bien évoquées, soient bien prises en compte. Parce que les enfants placés ont une expertise, chacun de nous a son histoire, et dans cette histoire, on se rend compte tous qu'il y a un tronc commun. Tous, on a eu à peu près les mêmes problèmes de solitude, d'isolement, de séparation de fratrie, de placer, déplacer, replacer, d'être obligé de nous débrouiller pour faire des études supérieures. On a tous la même problématique. Tous.
D'intrusion dans l'espace vital.
Oui.
Mais oui, quelque part ça veut dire ça aussi. C'est ça. Que le lieu de protection maximale où on peut se reposer, dormir, avoir nos affaires, il est dévasté.
Il y a aussi quelque chose qui est dévasté, qu'on a constaté aussi pour beaucoup d'entre nous, c'est que l'aide sociale à l'enfance a cassé le lien avec nos familles biologiques.
Oui, et certains s'en vantent et certains disent que c'est le rôle de l'action éducative. C'est très problématique d'ailleurs.
Alors que là, moi je trouve que c'est une erreur parce que des parents peuvent être défaillants, des parents peuvent ne pas s'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son enfant. Et qu'on est un mauvais parent.
Oui, mais on ne lance pas des mécaniques comme ça sur des suspicions. On en revient encore.
Avec l'aide sociale à l'enfance, on vous l'enlève parce que vous êtes mauvais.
Ou parce
qu'il y a un doute. Oui. Bon, c'est le principe de précaution. Bon, à la limite, je peux le comprendre. Donc, ce comité de vigilance transmet régulièrement, à proposer aux députés, quand cette commission est composée de 30 députés, s'est constituée. Nous nous sommes mis en rapport avec cette commission, enfin avec sa rapporteure, et la gouvernance du comité de vigilance s'est mise en rapport avec la rapporteure de la commission pour demander, voire imposer, on n'a pas eu à le faire, ça a été accepté facilement, que systématiquement, on puisse proposer à côté des députés, nous aussi, des personnes à auditionner, et qu'on puisse aussi, en dehors des questions des députés, que les questions des enfants placés des comités de vigilance puissent être aussi transmises aux députés. Tout ça a été accepté. Ça se passe d'ailleurs très très bien. Donc, comme je suis dans le comité de vigilance, je ne suis pas dans la gouvernance, parce que je n'en ai pas le temps et puis je suis trop âgée pour ça. Mais comme j'ai du temps, je suis toutes les auditions de toutes les personnes interviewées. Et j'en fais des comptes rendus que je publie sur LinkedIn. Donc, c'est public. Les auditions sont publiques. Si vous allez sur le site vidéo de l'Assemblée nationale, vous pouvez suivre toutes les auditions, commission d'enquête, protection de l'enfance. Vous pouvez suivre toutes les personnes auditionnées. Donc,
vous appartenez à un collectif également.
Voilà, le comité de vigilance des enfants placés, c'est un collectif. Voilà. Et puis, la dernière chose où j'interviens dans le bénévolat, c'est que je suis la marraine d'une association qui s'appelle Méthode 3A. Et cette association s'est créée afin de prendre en charge dans des lieux de vie particuliers des cas particulièrement difficiles de jeunes en protection de l'enfance qu'on ne peut momentanément pas maintenir dans leur lieu de placement habituel.
D'accord, des cas lourds.
Voilà, d'accord. Un peu des lieux de où on va les sortir de là pour les apaiser, pour les calmer, pour mieux les accompagner, pour comprendre ce qui se passe. Il y a beaucoup de psychologues dans cette association. Et alors pourquoi méthode 3A ? Parce que les 3A veulent dire accueillir, apaiser et accompagner. Parce qu'en protection de l'enfance, on ne peut pas dire qu'on soit spécialement bien accueilli. Enfin, en tout cas, moi j'en ai un très mauvais souvenir de mon accueil en protection de l'enfance. On n'est pas très très bien accueilli. On vous retire d'un endroit, on vous explique surtout pas pourquoi. Et ça c'est terrible, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas ce qui se passe. On vous ramasse, on en pose deux là, on fait 300 mètres ou 2 kilomètres ou 10 kilomètres, vous savez pas parce qu'il fait nuit. Paf, on pose deux de vos frères et sœurs, vous savez pas où ils sont ni quand vous les reverrez.
Il y a une violence de l'intervention étatique.
Rien. C'est d'une violence, folle. Et là, il y a franchement quelque chose à faire, parce que c'est violent pour les enfants, mais c'est aussi extrêmement violent pour le parent à qui on retire l'enfant.
Ah oui.
Parent a demandé de l'aide, même s'il a demandé de l'aide, lui aussi, il a besoin d'être respecté, il a besoin d'être compris. C'est pas la peine de lui dire, si vous aviez été meilleur, on vous enlèverait pas vos gamins. C'est pas des réflexions qui doivent se dire, ça. Hein. Donc, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Quand on m'a enlevé à mes parents, j'ai demandé, j'avais 9 ans quand même, j'étais assez grande, j'ai posé la question. On m'a dit, écoute, t'es là parce que tes parents sont pas capables de s'occuper de toi. Hein. Si c'était pas des incapables, on t'emmènerait pas.
Ah bah oui, voilà, ça c'est un bon début déjà, ça.
Ouais, c'est un bon début, ça. Ouais. C'est un très très bon début. Donc voilà, c'est ce qui explique mon engagement dans la protection de l'enfance auprès des jeunes de l'ASE, c'est parce que moi j'ai tellement souffert de solitude. De solitude. Ça aurait pu me faire des tas de bêtises, même parfois aujourd'hui, 60 ans après, je me demande comment j'ai fait pour pas mal tourner.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Mais vous en sortez bien, Martine, parce qu'on va expliquer aux auditeurs que vous êtes juriste, vous avez une maîtrise en droit social et droit administratif, vous avez un joli parcours professionnel.
Ça a été c'est ce qui m'a sauvée.
Oui, les études.
C'est ce qui m'a sauvée, c'est les études. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai demandé à... on met tout le monde en CAP au début, parce qu'il faut sortir le plus vite possible de l'ASE. Dès que vous avez le CAP, paf, il faut aller au boulot. Et bon, moi, ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai pas eu le choix. Donc, quand j'ai eu le CAP, j'ai souhaité poursuivre des études. On m'a dit, ça va être compliqué parce que nous, on finance pas les études, surtout les études supérieures. On peut peut-être un peu t'aider pour les études, mais comment tu vas faire? Parce qu'avec un CAP pour rentrer en seconde, etc. Effectivement, c'était un très très gros problème. Je n'ai trouvé qu'une école privée qui m'a accepté, moyennant un coût important. Parce que je n'ai jamais suivi les classes de 6e, 5e, 4e, 3e. Je sais pas si c'est
d'accord,
du CAP.
Parce que vous n'avez pas rattaché avec votre famille après le placement. Donc vous étiez vraiment seul. Ok. Vous faites partie de ces gens. Vous avez payé vos études.
Alors,
on peut en parler. J'étais étudiant boursier. Je travaillais durant la nuit.
J'étais boursière. J'ai dû me bagarrer pour aller avoir une bourse parce que c'était pas automatique.
Ah oui,
aujourd'hui,
les
enfants de l'ASE sont automatiquement boursiers quand ils font la demande. C'était pas le cas à l'époque. Donc j'ai mis 3 jours à me battre avec le rectorat pour obtenir ma bourse. Et puis j'ai travaillé à côté. Voilà.
Et puis elle était insuffisante déjà. Déjà à l'époque, elle était insuffisante. On avait une bourse.
Donc j'ai travaillé à côté.
C'était pas suffisant. Ouais.
Voilà. Puis l'ASE m'a quand même aidé. Puis comme la majorité était à 21 ans à l'époque, pas 18.
D'accord.
Donc elle a continué à financer, on va dire, le gîte et le couvert, quoi. Hein, donc elle a aidé un peu pour payer l'internat. Un peu pour payer les études. Et puis, tout ce qui manquait, ça a été ma bourse et puis le travail.
Et est-ce que vous avez réussi à devenir maman ?
Oui.
Donc vous avez fait une famille, vous avez combien d'enfants ?
Oui. Oui, j'ai 2 filles. J'ai 2 grandes filles, une qui est médecin.
Ah bien !
Généraliste, et l'autre qui, après avoir été éducatrice, est assistante sociale d'entreprise.
Et monsieur est toujours là ?
Monsieur est toujours là.
Donc vous avez fait
Alors nous sommes une famille recomposée parce
d'accord.
que pour les gens qui liront mon livre, c'est peut-être l'avantage qu'ont parfois les filles à l'aide sociale à l'enfant, je ne sais pas. Moi, je me suis sortie de là à 20 ans par le mariage.
Ah oui, voilà. Vous étiez émancipée en fait.
Voilà, je me suis émancipée par le mariage.
D'accord.
Non pas que j'avais vraiment envie de me marier.
Non, mais j'en connais d'autres.
Ouais. Très honnêtement, je savais pas ce que j'allais devenir. Je savais pas, une fois que l'internat allait être terminé, une fois que j'allais être en terminale, j'ai eu une chambre ensuite au Crous pour pouvoir continuer mes études de droit. Mais là, il n'y avait plus de protection de l'enfance parce que là, on m'a dit des études supérieures. Alors, c'est même pas la peine de prononcer le nom. On ne te connaît plus. Donc, il fallait là aussi que je travaille tout en faisant les études à la fac. Donc, c'était compliqué. Et puis, le hasard, je ne l'ai pas cherché, mais je veux dire, le hasard a mis sur ma route, sur ma route universitaire, un autre universitaire. Et puis, ça s'est fait comme ça. Mais c'était pas une mauvaise union, mais c'était pas une union... harmonieuse et avec tout ce qu'on peut en attendre, mais d'un côté comme de l'autre, si je puis dire. Donc ce fut un stop d'un commun accord, sans aucun souci, ni avec les enfants, ni ensemble. Voilà.
D'accord.
Et voilà, donc j'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui je suis depuis 40 ans maintenant. Et j'ai deux enfants, il a deux enfants, et nous avons ensemble 10 petits-enfants.
Eh bien, c'est magnifique, ça, vous avez des beaux Noëls.
Et tout ce monde-là s'entend bien, ce qui est...
Ah, c'est encore mieux.
Voilà, ce qui est plutôt bien. Mmh. Et je, avec le recul, quand je du haut de ma chaise, je regarde ma vie d'en dessous, je pensais honnêtement pas que j'en arriverais là. Alors, pas au niveau des études, parce que les études, j'étais à peu près sûre de réussir, parce que c'était de ma volonté personnelle. Mmh. Et je me suis tellement accrochée, et je n'ai regardé que ça et rien d'autre. Que ça et rien d'autre. Ça a été mon objectif avec un grand taux en 4D pendant plus de 10 ans, seconde, oui, première, terminale, puis toutes mes années de fac.
Les études peuvent sauver, hein, pour beaucoup de gens. Ça peut être une manière de se hisser, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Ça m'a sauvé, et puis j'ai rencontré quand même quelques personnes sympathiques, hein, des profs, quelques amis, il y a quand même des gens bien sur Terre.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
D'ailleurs,
on tape beaucoup sur l'ASE et les sociaux, mais il y a quand même des gens dedans qui font tout ce qu'ils peuvent, hein. Il faut quand même le répéter.
Oui. Mais en dehors de l'ASE, je veux dire, en dehors de l'ASE, quand on fait des études à la fac, on se fait forcément des copains, des copines, on rencontre des gens. Voilà. J'ai eu un petit peu de mal au début parce que, comme tous les enfants de l'ASE, on ne fait confiance à personne. C'est un peu la grosse difficulté. Donc, j'avais beaucoup de difficultés quand quelqu'un venait vers moi pour me proposer son amitié, à croire que c'était possible. Et plusieurs fois, j'ai loupé le coche parce que je me disais, c'est pas vrai, c'est encore quelqu'un qui va me faire du calme, c'est encore quelqu'un qui va me mentir, c'est encore quelqu'un qui va me raconter des coups. Je n'arrivais pas à accepter, à avoir confiance dans les gens plus âgés que moi et même dans les gens qui avaient le même âge que moi, je pensais toujours qu'on allait systématiquement me mentir et qu'à la sortie, j'allais encore avoir mal.
Et c'est pour ça qu'il faut que les enfants aient des sentiments d'apaisement, de calme, de sécurité, d'espace personnel inviolable, d'émotions positives autour d'eux.
Parce qu'autrement, respect.
Bien sûr. Parce qu'autrement, après, il y a les problèmes que vous dites là, qu'on surmonte effectivement avec le temps. Hein, mais quand un enfant,
on les surmonte, mais ils ne disparaissent jamais complètement.
Bien sûr.
Hein, parce que grâce à mes études, grâce à ma famille, à mon mari, etc., j'ai eu la chance. Tous les enfants placés n'ont pas cette chance d'avoir construit quelque chose de solide, d'extrêmement agréable, de chaleureux, dans lequel je me trouve particulièrement heureuse. Et d'avoir pu accompagner mes enfants, d'avoir pu être là pour elles tout le temps, d'être encore là pour elles tout le temps quand elles en ont besoin, malgré leur quarantaine passée, je me dis que c'est formidable parce que j'étais tellement en colère contre tout et je ne croyais tellement en rien qu'en moi par rapport à mes études, mais dès qu'il y avait une tierce personne, pour moi c'était plus possible, ça ne pouvait pas réussir. Donc, je me disais, je ne réussirai que grâce à moi, parce que je n'ai confiance qu'en moi, en quelque sorte, et pas dans les autres. Ça m'a beaucoup motivée, ça m'a beaucoup aidée. Bon, chacun s'en sort comme il peut, mais bon, on arrive à s'en sortir avec un parcours à l'ASE. Hein. On ne devient pas tous délinquants, prostitués.
Non, mais vous êtes passé par les années 80, les années 90. C'était peut-être plus fertile qu'aujourd'hui. Hein. Il y a ça aussi.
Hein. Et on revient au mentorat, vous voyez. Mm-hmm. Parce que moi, quand je me replonge dans ce que je vous raconte, si cette possibilité de mentorat, vous voyez, avait existé à une certaine époque, on ait pu se tourner vers quelqu'un qui soit là pour vous, qui instaure une relation de confiance avec vous, et puis qui vous soutient, qui vous guide, qui minimise. Moi, je m'affolais pour pas grand-chose, quoi. Parce que c'est la moindre chose, ça devenait extrêmement lourd à porter pour moi. Parce que
c'est
ça,
pour ça que l'enfant est un triptyque et qu'il lui faut une composante maternelle et qu'il lui faut une composante paternelle et que si on les lui enlève, si elles n'ont pas été, les attachements n'ont pas été faits, il faut absolument en créer un qui soit fiable. C'est un métier, ça s'appelle éducateur ou éducatrice. Et si jamais il a été interrompu et qu'il manque, eh bien, il faut soutenir l'enfant tout le temps. Qu'il fasse ce travail par lui-même et les psychologues vous disent que ça se fait sur des années et des années et que malheureusement ce n'est pas avec 300 enfants à regarder par mois qu'on peut faire ce travail correctement. Voilà.
C'est sûr. D'un autre côté, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup, d'enfants, il y a beaucoup de parents en difficulté, il y a beaucoup d'enfants à prendre en charge.
Oui, enfin, la vie est dure et quand on a voyagé un petit peu sur le monde, je suis désolé, on peut encore aller beaucoup plus bas. Hein, donc, il faut le regarder aussi comme ça. Hein,
si vous, c'est vrai.
Regarder au-dessus, mais il faut regarder en dessous. Il y a les deux. Hein.
Oui.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Donc voilà, tout ça explique pourquoi je m'engage autant dans la protection de l'enfance, pourquoi je suis les auditions, pourquoi je viens discuter avec les députés, pourquoi c'est parce que tout ça, nous les enfants placés, on est capable de le dire, on est capable de les informer d'un certain nombre de choses, que ces choses, que ce soit en 1960 ou en 1980 ou en 2024 aujourd'hui, on les retrouve. On les retrouve d'une manière différente.
Ça, c'est pas arrangé.
Quand on refuse un contrat jeune majeur à un gamin de 18 ans et qu'il se retrouve dans un squat, je vois pas bien la différence avec moi quand on m'a dit tu veux faire des études, tu te débrouilles.
Oui, non, mais c'est.
Et il s'est passé 60 ans.
Mais Martine, ça s'est pas arrangé. Je veux dire, être étudiant boursier à mon époque et travailler dans un bar la nuit, c'était compliqué. Mais quand je regarde les jeunes, là, aujourd'hui, ça ne s'est pas arrangé du tout. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit cet ouvrage, je me suis investi. Moi, j'ai quand même plusieurs psychologues qui m'ont dit qu'on avait un état psychologique de la population de nos jeunes dans notre pays actuellement qui était celui d'un temps de guerre, quoi. Avec des jeunes filles, des jeunes femmes qui ne veulent pas faire d'enfants, des jeunes hommes qui ne sont pas conquérants, qui n'ont pas envie d'aller créer des sociétés ou devenir propriétaires et de s'instaurer. C'est normalement, si vous voulez, l'attitude de la population, normalement, c'est les années 39 ou 40, c'est pas les... Donc aujourd'hui, la jeunesse n'a pas forcément bien, c'est pas facile, il faudrait pas leur taper dessus inutilement non plus. Aussi que je voudrais venir. C'est, les bonnes intentions ne suffisent pas, c'est Marc Juston qui m'a dit ça un jour, hein. Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes.
Vous avez totalement raison, hein, Stéphane, de dire ça, parce que la jeunesse, c'est pas normal que notre jeunesse d'aujourd'hui n'aille pas bien comme ça.
Mais non, parce que normalement, c'est eux qui sont censés être les poumons, l'énergie et tout pousser, là actuellement, c'est pas ça. Hein, donc,
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et ben faut pas s'étonner qu'on est en train de passer dans une ère un peu particulière avec beaucoup de violence, beaucoup de délinquance, beaucoup de difficultés matérielles, beaucoup de qui sont terribles et bon pas seulement pour les enfants de la ZE. Hein.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
On va quand même terminer sur des bonnes nouvelles. Vous avez un parcours remarquable. Vous avez écrit un ouvrage. Je dis qu'aux gens, il faut aller le lire. Vous faites un travail aussi qui est... parce que vous êtes assez humble. Vous parlez de vous-même. Vous êtes quand même suivi par pas mal de monde. Ce que vous écrivez est lu par quand même pas mal de personnes. Et puis, moi, je vous remercie beaucoup pour d'avoir fait l'effort de lire mon ouvrage, d'en parler, de m'aider comme ça à travailler sur la seconde version que j'essaierai de sortir en février ou en mars. Et puis, vous avez un projet d'ouvrage aussi, vous avez refaire des livres un petit peu. Celui-là est sorti récemment, je crois, non ?
Non, pas spécialement. Enfin, dans l'immédiat, non. J'ai fait un livre. Le livre que j'ai écrit, c'était...
Un exutoire, une façon de faire sortir quelque chose ?
Une façon de finaliser ma résilience et définitivement tourner la page.
Une thérapie personnelle.
Voilà. D'une part, et puis d'autre part, d'informer. D'informer parce que franchement, dans cette société, les enfants placés, nous sommes invisibles. On ne parle pas, on ne raconte pas. La seule manière qu'on ait de le faire, et j'ai beaucoup de mes congénères enfants placés, là, au comité de, anciens enfants placés au comité de vigilance, qui écrivent. Ils écrivent à cause de ça, pour se rendre visible. Dire attention, on a été là, ça existe.
Oui.
Et il y en a encore des comme nous.
Oui, mais il y en a aussi encore. Beaucoup qui sont contents de rester anonymes, ils n'ont pas envie d'avoir une étiquette sur le front. Donc il y a les deux, en fait, en même temps.
Oui, il y a les deux en même temps. Alors, moi, c'était surtout pour informer
aussi. Regardez, vous avez pris un pseudo quelque part, hein, quand vous avez écrit.
Oui, Mais alors moi j'ai pris le pseudo, c'était sur, par rapport à mes frères et sœurs aussi. Mmh. Parce que eux par contre ne souhaitaient pas, je leur en ai parlé, hein, quand j'ai voulu écrire le livre, j'aurais dit voilà, je vais écrire un peu notre histoire. Bon, mes frères et sœurs qui étaient beaucoup plus jeunes que moi et qui ont beaucoup moins de souvenirs n'en voyaient pas trop l'intérêt a priori, mais m'ont dit, ben, nous on n'a rien contre, simplement bon voilà, tu nous mets anonyme parce que voilà, nous il y a des gens à qui on n'a jamais dit qu'on avait été enfant placé, quoi. Alors je dis, bah, rassurez-vous, moi aussi, hein, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que j'ai pu être une enfant placée, et ça ne se lit pas sur mon front, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Bon, là, vous assumez voilà. Aujourd'hui, on peut diffuser, est-ce que vous avez l'entretien qu'on a eu aujourd'hui, vous savez qu'il
va être diffusé. Vous pouvez diffuser, bien sûr, ça m'est complètement égal, même avec le nom de Martine Gazan, c'est pas un problème. Hein. Non, vous pouvez, je pense qu'il faut qu'on sache tout ça. Il faut que, moi, mon objectif d'écriture et toutes les interviews et toutes les interventions qu'on me demande de faire, elles n'ont, et qui sont toutes bénévoles, parce qu'on a proposé de me payer, j'ai refusé. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de porter la parole des enfants placés, c'est de porter la parole des enfants en difficulté, et que la société tout entière en prenne la mesure que ces enfants sont des enfants comme les autres, et qu'ils ont droit aux mêmes chances que les autres. J'entendais l'autre jour à l'Assemblée nationale, franchement, je me suis demandé si j'avais bien entendu. Il y avait quelqu'un dans un département qui disait, ben vous comprenez, on a voulu installer une structure dans un département, je ne dirais pas lequel, et bien dans ce département, dans la commune où on voulait mettre cette structure, il y a eu un vote unanime de la mairie et des habitants contre l'installation d'une structure pour des enfants placés, parce que ce sont des enfants qui n'amènent que des ennuis et de la délinquance. Et le permis immobilier n'a pas été délivré pour construire cette structure. On en est encore là en 2024, hein. Quand même étonnant.
Bon, Martine, merci pour cet entretien. Merci pour tout ce que vous faites. Et est-ce que vous avez une conclusion ?
Eh bien, je voudrais terminer en disant merci à défendre les enfants. Mmh. Et merci d'avoir rappelé à travers votre livre les principes fondamentaux, les besoins fondamentaux dont tous les enfants ont besoin, et surtout, d'avoir formulé des propositions. Plus on est à en formuler, plus ça finira par aboutir, j'en suis certaine. Donc merci à vous pour ce magnifique livre que je conseille vraiment, vraiment à tout le monde, même si on n'est pas professionnel, de le lire.
Merci Martine, merci beaucoup, à bientôt.
Merci Stéphane, merci à vous, bonsoir à tout le monde.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.